Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio dans l'émission Entre Chiens et Loups. Bienvenue à toutes et à tous. Et je dois dire que vous qui écoutez cette radio régulièrement, cette émission régulièrement, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à être passionnés de lecture et de littérature. Je vous invite donc ce soir à venir et à célébrer la lecture, en particulier pour la jeunesse, au Salon du Livre qui se déroulera à la Salle des Fêtes d'Enghien-les-Bains dimanche prochain, le 12 mars. Ce soir, nous avons la chance de recevoir dans notre studio les organisatrices de ce salon. Et nous aurons, au cours de l'émission, le plaisir de joindre par téléphone certaines autrices. C'est comme ça qu'on dit. Les autrices et certains auteurs présents sur le salon. Bonsoir Fabienne Cadoche.
Bonsoir, merci de nous recevoir.
Bonsoir Jacqueline Pérez.
Bonsoir.
Jackie. Ah, c'est presque Jacqueline, absolument. Mais c'est Jackie. J'ai aussi le plaisir d'accueillir près de nous, dans notre studio, mon excellente collègue de la radio, Véronique Gastin. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Claude, ravi de te revoir.
Le Salon du Livre d'Enghien-les-Bains revient après 3 ans d'absence. On sait pourquoi. Il y a eu le virus, etc. Ouais. Jackie Pérez va nous expliquer. Vous promettez un salon joyeux et populaire.
Absolument.
Ça m'a beaucoup plu. En quoi sera-t-il joyeux et populaire, Jackie Pérez?
Eh bien, c'est un salon du livre qui renaît, bien sûr, après le Covid, 2 ans d'absence. Et donc, c'est le seul salon qui existe sur Enghien. Nous sommes donc très heureux de son retour, mais cette fois-ci, il sera dédié exclusivement à la littérature jeunesse. Petits, pré-ados et ados. Alors, seront présents parmi nous, bien sûr, de nombreux auteurs de romans de fiction, d'histoires, de BD, et bien sûr, tous nos auteurs attendent leurs lecteurs avec impatience pour pouvoir échanger. Et les enfants pourront découvrir des nouveautés. Mais il y aura aussi des illustrateurs, une conteuse, Dominique Smadja, de la médiathèque d'Enghien, et des ateliers créatifs. Alors, ces ateliers créatifs auront lieu tout au long de la journée. Il y en a qui seront permanents. Découpage et collage pour présentation avec des réalisations des enfants. À 11h, il y aura des petites cartes à gratter pour ceux de 3 ans. À 14h, la fabrication de Paper Toys. Ce sont des petits animaux en volume, en papier, à partir de 7 ans. Et à 17h, réalisation de marque-pages en couleur, aussi à partir de 5 ans.
On reviendra sur le programme de la journée.
Absolument.
Pour rappeler à nos auditeurs et nos auditrices que ça va être très chargé ce dimanche 12 mars.
Et ces ateliers vont être animés par Tiphaine de la librairie Crocolivre, qui, elle, est organisatrice avec nous, ainsi que la médiathèque d'Enghien-les-Bains.
Ah voilà, la librairie Crocodile qui se trouve rue du Général de Gaulle.
Tout à fait, là, absolument.
Dans la cour. Et c'est une librairie qui distribue toute une littérature pour la jeunesse.
Absolument.
Avec un accueil très aimable, je trouve.
Oui, elle est très dynamique, elle est toujours disponible et elle fait vraiment les choses avec beaucoup de cœur.
Oui.
Donc, ça va commencer à partir de quelle heure?
Ça commence à partir de 10h et oui, ça durera jusqu'à 19h.
Avec des pauses.
Alors, il y aura bien sûr des personnages qui vont apparaître en personne, comme Geronimo Stilton, Guthrie et Lan Trotro, dont va en vous parler Fabienne tout à l'heure, et qui viendront à la rencontre de nos jeunes lecteurs et de leurs parents.
Alors, donc, ça va être ouvert. Alors, ça, on est sensible à ça, parce que quand on est jeune parent, on a envie que les enfants aiment la lecture, aiment les livres, et la plupart des jeunes parents offrent des livres, mais c'est aussi le fait des grands-parents.
Hein, quand on... C'est justement, on a vraiment la place de grands-parents, et on peut s'occuper toute la journée dans ce salon, puisque comme a expliqué Jackie, il y a des ateliers, il y a aussi une exposition par l'école des loisirs « Comment fabriquer un livre ». Il y a donc ces mascottes. Et puis, pour le coin gourmand, il y aura un buffet salé, sucré, des boissons chaudes, des boissons froides. Donc, vous pouvez venir passer toute la journée en notre compagnie. On sera un plaisir de vous accueillir.
Alors, c'est vraiment très amusant parce qu'on y boit, on y mange, on lit, on se raconte des histoires. On va découvrir aussi des auteurs. Quelquefois, les ados n'imaginent pas que les auteurs soient encore vivants. Ils s'imaginent, on est tous des Victor Hugo, des Chateaubriand au fond. Mais des auteurs vivants qui s'adressent à eux avec un appétit de transmission qui est très fort.
Et on a des auteurs qui viennent régulièrement à nos salons et qu'on a le plaisir de retrouver.
Alors, vous avez invité plus d'une quarantaine d'écrivaines et d'écrivains qui sont pour la plupart des auteurs pour les adultes. Ils écrivent des livres pour les adultes. Parfois même, ce sont des auteurs de polar. Ils sont aussi passionnés par la littérature jeunesse, la littérature enfance. Nous allons en citer quelques-uns. Nous ne pourrons pas tous les mentionner ici, mais j'aimerais, Jackie Pérez, que vous nous parliez d'Isabelle Bautier.
Alors, Isabelle Bautier, en fait, elle est scénariste pour la télévision. Et elle a fait la série « Un gars, une fille » que tout le monde connaît. Elle participe également à l'écriture de différentes séries d'animation comme « Le Mini-Loup »,« Grabillon » et surtout « Choupi ». Elle travaille pour la presse et elle met son imaginaire au service de la BD dans le journal de Mickey et dans Super Pif. Et elle est auteure de nouvelles comme Mort sur le Nil, Les enfants du Bayou, Cassandra. Et puis bien sûr, elle écrit pour les enfants toutes sortes de romans qui les passionnent.
Et elle sera là,
elle sera là sur
le salon. Elle sera là sur le salon dès 10h du matin avec cette collection incroyable. Et ils ont une productivité, ces auteurs, pour les enfants, une imagination absolument
débordante.
Formidable.
Et le plaisir qu'on aura aussi, c'est qu'on a des auteurs, mais aussi des illustrateurs. Et tous les auteurs et ces illustrateurs les attendent avec impatience parce qu'ils ont été privés de salon avec cet épisode Covid. Donc tout le monde a soif de se retrouver.
Formidable. On va retrouver d'ailleurs une de vos autrices, Fabienne, c'est Yaël Hassan.
Oui,
alors,
c'est une fidèle de notre salon.
Voilà,
oui,
quelqu'un de très important.
C'est une fidèle de notre salon qui vient régulièrement. Et en fait, elle a commencé à écrire parce qu'elle a eu un grave accident de voiture à 42 ans. Et elle se cherchait une passion pour pouvoir vivre sa convalescence d'une manière moins triste. Et elle a découvert la passion pour l'écriture et elle s'est jetée à bras-le-corps dans cette passion. Et par exemple, en 97, elle avait écrit un premier roman, Un grand-père tombé du ciel, qui avait obtenu de nombreux prix. Et puis, tout le long de sa carrière, est jalonnée de prix, puisqu'en 2015, elle a reçu un premier prix littéraire décerné par les jeunes lecteurs de la maternelle au lycée. Et puis, tous les ans, elle a de nouveaux livres. Par exemple, en 2021, elle a sorti « Haut les cœurs » et en 2022, « Pas chez nous ».
Oui, c'est aussi une véritable artiste. On va aussi rencontrer sur le salon Camille Collère. Alors, ça, c'est une autrice, je dirais, hyper prolifique.
Hein. Exactement, parce que sous son pseudonyme de mime, elle a pu créer une pléiade de romans jeunesse, par exemple Nino et Dino, Noé et Azote. Et puis depuis 2012, elle est autrice de fiction radiophonique pour France Culture et France Inter en particulier. Et c'est une cinquantaine d'épisodes de La vie trépidante de Brigitte Tornade. Et alors, cette Brigitte Tornade, elle l'a mis en scène, elle a créé une pièce de théâtre. En 2019, elle a donc fait une adaptation. Et pour vous dire le succès qu'elle a rencontré, en 2020, elle a été couronnée par le Molière de la meilleure comédie. Elle est aussi traductrice et elle est aussi scénariste de la BD « La tribu de Juju » pour le magazine des ados Julie. Donc, c'est une tornade.
C'est une tornade, effectivement. Vous dites qu'elle est traductrice. Elle a traduit plus de 100 ouvrages pour la jeunesse.
Exactement.
C'est absolument incroyable. La capacité et puis la passion qui les anime. Donc, on pourra rencontrer Camille Collère également sur le salon. Alors, vous avez vos mascottes.
Ah oui, moi, j'ai mes mascottes.
Alors, citez-nous vos mascottes.
Alors, avec plaisir.
Mais vous faites que les citer parce que il faudra que je parle aussi de la mienne.
D'accord. Alors, puisque vous me restreignez le temps, je vais parler de l'âne Trot-Trot. Je vais parler de Geronimo Stilton. Et je vais parler de Gurtie. Gurtie, c'est une petite chienne qui, malicieuse, dit « Quand j'étais petite, je croyais que je m'appelais Jarrette. Arrête !» Voilà, parce qu'elle fait plein de bêtises. Donc, on a nos trois mascottes qui viennent au cours du salon à la rencontre des parents, des grands-parents, des petits-enfants qui vont échanger avec eux et prendre des photos.
Ça va, donc je comprends en quoi ça va être joyeux et populaire quand je vous entends. Alors, donc, si vous en avez des mascottes, moi, j'ai une star, je dirais, une star de la littérature jeunesse, et j'aimerais, on va pouvoir l'appeler au téléphone dans un moment, vous présenter Sylvie Allouche. Elle est à la fois photographe, écrivaine, réalisatrice. Elle a reçu plusieurs prix littéraires pour son Stabat Murder. Stabat Murder, c'est une enquête policière dans le monde des jeunes virtuoses du piano qui sont dans les concours du Conservatoire National de Musique de Paris. Et c'est une enquête assez remarquable. Mais pour le salon, et à l'occasion du salon, elle a publié récemment un album musical avec une BD consacrée à l'histoire de deux enfants à l'été 42. C'est l'été sombre et dramatique de la rafle du Veldiv, et elle raconte avec une grande sensibilité cette histoire avec un fond, enfin, c'est plus qu'un fond, c'est une création musicale de Fabien Cally. Elle va être avec nous au téléphone dans un tout petit instant, mais j'aimerais que nous écoutions l'introduction. C'est comme une sorte d'opéra où il y a des enfants, des choristes enfants, et avec l'orchestre symphonique de Mulhouse, vous allez écouter Alexandra Stumm au violon, une œuvre extraordinaire. Et nous aurons ensuite Sylvie Allouche au téléphone avec nous. Bonsoir Sylvie Allouche,
Et bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce livre-album que vous avez intitulé « La musique des âmes ». Nous avons entendu l'extraordinaire sensibilité d'Alexandra Soum dans cette introduction de Fabien Cali. Que vous dit cette musique et que raconte ce livre ?
La musique des âmes, c'est un livre dont le thème principal est la rafle du Veldiv. Et il est écrit pour des jeunes, des enfants, mais pas que, puisque d'après tous les retours que j'en ai, je reçois des lettres de personnes que je vois en salon qui me disent « merci d'avoir raconté notre histoire ». Voilà, c'est un livre extrêmement touchant. Maintenant, l'album, le fait que l'orchestre symphonique ait pris en main mes mots et les transformé en concert majestueux dirigé par Victor Jacob et Alexandra Soum qui est tout simplement sublime. Ça a transcendé mon histoire, en fait. L'album est très beau, les images sont de Jean-Louis Feliccioli. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le feuilleter, mais c'est juste magnifique. Donc, en fait, comme dit cette musique, c'est un langage universel. Voilà, c'est assez incroyable. Et moi, je m'en réjouis parce que ce thème est porté partout. Et c'est important, c'est important, voilà, de faire notre devoir de mémoire et de rappeler ce qui s'est passé.
Est-ce que c'était un projet très ancien que vous portiez, Sylvie, dans votre travail de créatrice, d'écrivaine ?
Le fait de travailler avec des musiciens ?
D'une part, et d'autre part, de travailler sur ce thème-là.
En fait, ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire sur ce thème. Moi, j'ai commencé mon travail d'écrivain en travaillant sur des documentaires, mais je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'ennuyer encore plus les jeunes avec des dates, etc. Il y a des historiens qui font ça très bien maintenant. Donc, moi, je me suis dit, je vais prendre le biais de la fiction. Et le grand défi que je me suis lancée, c'est comment écrire cette histoire si douloureuse pour des si petits, puisque normalement, à la base, il est destiné à des CM2 6e. Mais je sais que je rencontre beaucoup de jeunes qui sont en 3e, par exemple, qui ont 14, 15 ans.
Et, qu'est-ce qu'ils vous disent comment ils reçoivent ce livre-album ?
Ah, c'est le livre-album à la fois la musique qui vient j'allais dire support, mais c'est plus que ça, qui fait s'élever le texte. En fait, ils le reçoivent très bien. Les images de Jean-Loup sont là pour préciser les choses. Et il faut que je dise aussi qu'avant l'album audio, il y a un roman.
Oui, bien
l'album
sûr.
Est une adaptation du roman que j'ai écrit pour la même pour les mêmes jeunes enfants et vraiment le roman ça les fait se questionner. D'abord ça leur apprend des choses parce que je pense que les programmes scolaires sont tellement chargés que cette période c'est très particulier, c'est 3 jours hein dans la Seconde Guerre mondiale durant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, au mois de juillet, le 16 juillet 42.
C'est ça, c'est 3 jours. Alors, c'est pas simplement à Paris. Hein. Il y a eu beaucoup de rafles en région. Ils se sont bien coordonnés pour ça. Et donc, les jeunes, comment ils le reçoivent ? Alors, ça a tout de suite un écho avec la guerre en Ukraine. Alors, je leur dis, c'est pas la même histoire, mais oui. Voilà. C'est difficile, c'est des moments terribles, mais ils sont assez... intéressée. J'ai eu des témoignages incroyables, hein, notamment d'une jeune fille qui s'appelle Viviane et qui, en classe de 3e, je dis, il n'y a pas de limite pour ce livre. Et son histoire, en 2 mots, c'est que leur professeur leur a demandé de poser la question à leurs parents le soir, comme ça, en disant, est-ce qu'ils sont au courant de cette rafle du Veldiv ? Et les parents de Viviane se regardent et disent, c'est cette jeune fille, je me permets de la répéter parce qu'elle l'a dit ouvertement, ses parents disent, il faut lui dire maintenant. Donc ce soir-là, et moi c'était 8 jours avant ma venue pour la rencontrer, ce soir-là elle apprend qu'elle est juive, elle ne le savait pas, elle apprend que ses arrière-grands-parents ont tous les deux été déportés à Auschwitz. Elle n'a eu qu'une quête quand elle a appris ça, c'était de voir ses arrière-grands-parents. Et ce qui m'a profondément émue, c'est que les grands-parents qui n'avaient jamais rien dit, ça a été un... Le robinet a été ouvert, ils n'ont pas tari, ils ont raconté les camps, ils ont tout raconté, c'était même très éprouvant pour elle. Et puis elle me dit, puis ils s'arrêtent parce qu'ils se souviennent plus, parce qu'ils perdent la mémoire, ils sont très très vieux. Et ce qui m'a touchée, c'est que cette jeune fille court après une mémoire qui s'efface.
Effectivement.
Et quand elle m'a serré dans ses bras en me disant, sans votre livre, je n'aurais pas connu mes origines.
C'est extraordinaire ce que vous racontez là.
Je vis des moments très, très touchants, en effet, c'est
profondément bouleversant et je pense que ceux qui viendront au salon du livre d'Anguin dimanche prochain pourront raconter encore des histoires en écho à votre livre. Vous y parlez aussi beaucoup de musique, évidemment. On a évoqué l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Il est question d'âme. Dites-nous un petit mot de cette âme ou de ces âmes.
Alors là, c'est une très bonne question parce que quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, je me suis dit que si je ne trouvais pas l'axe poétique, je dis bien poétique pour l'écrire, je me serais pas lancée dans l'écriture de ce roman. Et puis, je suis allée voir un ami luthier à Amsterdam et puis il m'a montré des violons, il les a décortiqués, et on a parlé beaucoup. Je me suis beaucoup inspirée quand dans mon roman je parle des odeurs, des essences de bois, etc. Je me souvenais de ce que j'avais ressenti dans son atelier. Et puis je découvre qu'il y a une minuscule pièce dans le violon qui s'appelle l'âme. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit c'est bon, je vais l'écrire. Et le titre, La musique des âmes, évidemment, était un double entendre, la musique des âmes, des violons bien sûr, mais des âmes de tous les juifs disparus aussi. Et ça a été un moment assez incroyable quand j'ai découvert ce mot.
Vous vous faites penser à l'âme brisée.
C'est Véronique Gastin qui nous parle.
Oui, bonsoir Sylvia Lous, vous me faites tout à fait penser à ce magnifique livre, L'âme brisée.
L'âme brisée de Akira Mizubayashi. En japonais.
Voilà, vous connaissez, je suppose.
Un très beau livre. Sylvie, vous serez donc dimanche prochain au salon dès 10h à Anguin ?
Oui, bien sûr, toute la journée.
Et toute la journée, et je crois que vous rencontrerez tous ces jeunes et tous leurs parents et leurs grands-parents peut-être qui seront évidemment extrêmement sensibles à votre œuvre, cette œuvre magistrale qui au départ, vous disiez, s'adresse plutôt à des enfants de 10-11 ans, mais qui je crois peut traverser plusieurs générations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au téléphone, Sylvie Alouche. Merci les organisatrices qui sont avec nous, Jackie Pérez et Fabienne Cadoche, sont absolument enchantées de vous avoir.
Nous faisons partie des organisatrices parce que les organisatrices principales sont Hélène Azoulay et Suzanne Weiser. Nous sommes les petites mains. Madame, nous serons très heureuses de vous accueillir. On fera en sorte que votre journée se passe idéalement bien et vous apporter tout le confort nécessaire.
Mais c'est un plaisir. Merci énormément. Merci d'avoir pensé à moi.
Merci à vous. Sylvie. À dimanche.
À dimanche. Au revoir.
Voilà. Un témoignage extraordinaire de Sylvie Alouche qui touche au plus profond. Pour rester encore un tout petit peu dans cette période tragique de la des années 40. Je voudrais maintenant laisser la parole à Véronique Gastin, qui va présenter un moment important du salon, puisqu'il va y avoir une conférence, on n'en a pas encore parlé, une conférence de Sophie Carquin pour son livre « Alice, 15 ans, résistante ». De quoi s'agit-il, Véronique, vous qui avez exploré un peu ce moment du salon?
Bonsoir, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aussi. Eh bien, d'ailleurs, quand vous dites Alice, cher Claude, Alice, 15 ans, résistante, entre guillemets, vous ne m'empêcherez pas de rêver. Et effectivement, c'est tout à fait ça, puisque à 15 ans, Alice, qui vit une adolescence tout à fait ordinaire à Paris avec sa famille, ses amis, entre autres avec Colette, dont elle est secrètement amoureuse du frère, et Angèle. Et tout d'un coup, la guerre éclate. Elle part se réfugier chez ses grands-parents à Pornic, et quand elle est devant d'ailleurs l'avancée des Allemands. Et elle y part avec sa mère et son jeune frère Louis. Lorsqu'il retourne d'ailleurs à Paris occupé, elle décide, et là c'est très beau, elle décide avec ses parents de résister à l'envahisseur, à 15 ans quand même, en faisant quoi ? Des tracts qu'elle distribue. Elle accueille des aviateurs anglais, tout en hébergeant Colette qui est juive. Bref, lorsque Colette est dénoncée avec ses parents et qu'elle est envoyée avec sa mère à Ravensbrück, seule la solidarité entre déportés lui permettra d'ailleurs de survivre. Beaucoup de romans, d'ailleurs, cher Jackie, chère Fabienne, ont été publiés sur ce thème malheureusement de la Seconde Guerre mondiale et le sort des Français qui, eux, ont fait de la résistance. Et pourquoi ça vous a intéressé, Fabienne ?
Ça m'a intéressé parce que justement, c'est l'angle des résistants français. Parce que naturellement, il y a eu des romans majeurs sur les déportés juifs. Mais là, c'est une autre accroche, puisque ce sont des résistants français qui sont dans les camps. Et donc, il y a cette grande solidarité. Et c'est la seule façon de s'en sortir. C'est la solidarité entre des déportés qui permettra à cette jeune Alice de survivre avec sa maman.
Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours évident de trouver encore la trace des parcours de tous les déportés dans les camps d'extermination et qui vont la plupart du temps vers la mort, pour beaucoup d'entre eux. Mais vous, vous avez particulièrement aimé le personnage d'Alice pour son courage et sa bienveillance.
Oui, et puis les rapports qu'elle a avec sa maman, parce qu'elle est touchante, elle est bienveillante, elle est courageuse, elle est amoureuse de la vie. Et il y a aussi sa correspondance qu'elle entretient avec sa grand-mère et son amie Colette, pour qui elle s'inquiète naturellement terriblement. Et ça nous donne tout le panel de ces différentes émotions qu'elle ressent.
Alors, est-ce que c'est un journal ou ce sont des lettres ? On ne le dit pas dans le livre.
C'est au cours de roman qu'elle fait intervenir tout simplement la correspondance avec sa grand-mère et son amie Colette.
Et pour vous, Fabienne Cadoche, c'est un livre qu'il faut absolument lire.
Naturellement, et c'est transgénérationnel. Et ça peut ouvrir justement les conversations avec les différentes générations. Si vous permettez, j'attire aussi l'attention sur un livre qu'elle avait écrit précédemment. C'était un premier livre sur la résistance. C'était « Nous étions résistantes, deux amies témoignent 75 ans après ». En fait, elle avait écrit ce livre-là en 2020 et ensuite en 2022, elle a créé ce roman « Alice, 15 ans, résistante ».
En fait, c'est un livre qu'il faut absolument lire, puisque c'est comme un devoir de mémoire pour les jeunes générations. Et c'est un premier livre sur la résistance qui est d'ailleurs sorti en 2020, au mois d'août. Ça vous parlait de l'autre.
J'avais parlé tout simplement. En 2020, elle avait écrit un premier livre sur la résistance, « Nous étions résistantes ». Voilà. C'est deux amies qui témoignent 75 ans après. Et deux ans après, donc elle a créé ce livre sur la jeune génération, puisque là, c'est Alice, 15 ans.
Merci beaucoup Fabienne pour
avec
ce
plaisir.
Ah, merci à vous toutes et remercie aussi Sophie Carquin qui fera cette conférence à 15h je crois sur le salon du livre de jeunesse à Enghien ce dimanche 12 mars. J'aimerais on va aller joindre un autre auteur qui sera sur le salon. Il s'agit d'Emmanuel Villain qui va être au téléphone avec nous dans un petit instant, mais il nous emmène déjà en Californie sur nos planches, sur nos surfs, voilà, sur nos surfs, je cherchais le mot, puisqu'il a choisi de nous faire entendre les Beach Boys, Good Vibration.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Gentle word on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up she's by my excitation. Good, 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 good vibration. By my excitation. Good, good, good vibration. By my
donc notre auteur qui est aussi au téléphone est journaliste, auteur d'ouvrages...
Ancien journaliste,
voilà une précision importante, donc auteur, auteur à 100% ou à 200% peut-être.
Voilà, exactement, parce que je suis auteur à 100% pour la jeunesse et également à 100% pour les adultes, leurs parents peut-être. Donc oui, 200% en effet.
200%. Alors, en l'occurrence, pour le salon de la jeunesse à Enghien, vous allez venir, bien sûr, avec vos livres pour adultes, mais vous allez surtout venir avec vos livres pour les enfants. Et vous avez un art de trouver les titres les plus drôles. Vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Le fait est effectivement que je pars toujours du titre, aussi bien pour mes romans adultes que jeunesse, c'est souvent le titre qui va déclencher l'écriture. Je me souviens notamment, plus jeune, j'avais lu des interviews de Serge Gainsbourg qui disait que ses chansons partaient toujours du titre et que le titre d'une certaine façon était programmatique et qu'après on allait tourner autour de ce sujet. Donc effectivement, je suis toujours parti de là. Mon premier livre s'appelle « La boîte à bananes ».
Ah oui.
Et si on veut citer les suivants, c'est Au service secret de sa mémé.
Oui, ça fait penser à James Bond un peu, non?
Exactement, oui. Exactement. C'est un jeu de mots autour de James Bond. Et j'ai écrit la suite qui s'appelle Bon baiser de mémé. Et il y en aura d'autres à suivre où j'essaye de décliner un petit peu les titres de James Bond en les détournant un petit peu et en remplaçant James Bond, qui est la caricature un petit peu du mâle dominant, par une mémé. Par la grand-mère d'une petite fille avec qui elle mène des petites enquêtes, des aventures que ce soit en ville ou à la campagne.
Il y a aussi,
donc oui, mon idée était de détourner un petit peu ces titres-là, qui étaient un clin d'œil à la fois pour les parents, qui ça pouvait leur rappeler des films qu'ils ont connus, et aux enfants, effectivement, de leur faire un petit clin d'œil, parce que le mot mémé est très désuet, et en général, ça les fait beaucoup rire.
Oui, oui, ça va être assez...
Et le dernier s'appelle...
Albert au frigidaire. Voilà, je le redis, Albert au frigidaire, vous avez mis Albert au frigo. Qu'est-ce que ce personnage-là d'Albert? C'est un autre agent secret?
Alors, c'est pas un agent secret, mais c'est une sorte d'agent qui nous est envoyé, en tout cas qui a envoyé une petite fille qui s'appelle Éléonore, et qui va la sensibiliser aux problèmes climatiques d'aujourd'hui, au réchauffement climatique, tous les enjeux environnementaux. Cet éléphant d'Afrique se retrouve dans son frigo parce qu'il a trop chaud. Et la petite fille qui va le découvrir va essayer d'alerter le monde adulte des dangers que court la planète aujourd'hui, mais je l'ai fait sur un mode humoristique, bien sûr. Mais l'idée était effectivement de confronter cette toute petite fille qui est souvent négligée, dont on ne se préoccupe pas, dont les parents, qui encombre un peu ses parents, qui est à l'école et toujours un petit peu vilipendée pour sa petite taille, pour le fait qu'elle soit très très discrète. Et tout d'un coup, va surgir à l'école et chez ses parents avec un éléphant. Et tout d'un coup, on va lui prêter attention et prêter attention à son discours.
Ah oui, effectivement. Voilà. Quand on vient à l'école avec un éléphant, on passe pas complètement inaperçu.
Il se passe autre chose, effectivement.
Alors,
et cette idée-là de ce livre-là, en fait, était venue de mon premier livre qui s'appelle La boîte à bananes, où là, c'est l'histoire d'un enfant qui rencontre une girafe. Donc, il y a souvent dans mes livres ça, la rencontre d'un enfant avec un animal inhabituel. Et l'illustratrice, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Aurore Calias, qui a illustré ce premier livre, avait dessiné un éléphant dans un frigo, parce qu'il y avait un petit jeu de mots dans le livre autour de ça. Et j'avais tellement aimé cette illustration que je voulais un jour écrire un livre qui tournerait autour de cette idée-là d'un éléphant coincé dans un frigo. Et c'est une autre illustratrice qui a illustré Albert au frigidaire, qui s'appelle Émilie Sandoval, qui a fait un travail absolument formidable aussi. Et voilà, donc c'était né de cette d'une image que j'aimais beaucoup et que je voulais mettre en scène.
Vous êtes bien entouré là, je vois.
Oui.
vos livres, ils ont quelle forme? Ce sont des romans et ils s'adressent à quel âge?
Ce sont des romans, effectivement, qui sont illustrés, qui s'adressent aux enfants. C'est la collection, donc c'est édité à l'École des loisirs, la collection s'appelle Mouche. Et ce sont des romans qui sont conçus pour être lus tout seuls. Donc les premiers romans qu'on peut lire tout seul, qui font une cinquantaine de pages avec pas mal d'illustrations, et s'adressent aux enfants à partir du CE1, je trouve, CE1, CE2, CM1. Et chacun a son rythme de lecture, chacun a ses habitudes de lecture, donc il y a des enfants qui peuvent les lire très tôt, d'autres qui vont les lire un peu plus tard. Mais voilà, ce sont des romans qu'on peut lire seul, mais aussi accompagnés. Je connais beaucoup de familles qui... l'enfant lit une page, le parent lit l'autre page, par exemple. Donc c'est le premier pas vers la lecture un peu indépendante.
C'est super, ça donne très 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 envie hein, de découvrir, même pour les adultes que nous sommes ici dans le studio, de découvrir ces livres illustrés par vos excellentes graphistes qui vous accompagnent.
D'ailleurs, pour les parents, j'essaie toujours aussi qu'il y ait des références, parce que je sais qu'effectivement, moi, pour avoir lu à ma fille des livres de cette collection-là, où elle lisait un petit peu, je lisais un petit peu, je glisse toujours un peu des clins d'œil aux parents que l'enfant ne saisit pas forcément, mais par exemple dans Au service secret de sa mémé, elle utilise des jumelles à un moment donné pour mener son enquête et ça lui fait penser à un film qu'elle avait vu avec son père d'un type qui a la jambe dans le plâtre et qui espionne ses voisins avec ses jumelles. Donc c'est une référence à La fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock que l'enfant a priori n'a pas vu mais que le parent lui connaît sans doute. Et donc voilà, j'aime bien aussi faire des clins d'œil aux parents, à ce qu'ils connaissent aussi, et qu'il y ait une sorte de complicité avec leur enfant lors de la lecture.
Vous avez écrit pour les parents plusieurs ouvrages. Il y en a un qui s'appelle Sporting Club, c'est de quoi il s'agit?
Ah, Sporting Club, c'est mon premier roman auquel je suis très attaché.
J'imagine.
Le Sporting Club est un lieu qui existe vraiment à Beyrouth, où j'ai très longtemps vécu, et qui est un lieu assez mythique dans cette ville-là, car c'est une sorte de petit club sportif au bord de la mer avec des piscines.
Ça fait rêver.
Et qui a la particularité d'être un des seuls lieux de la ville qui a connu, hélas, beaucoup beaucoup de de soubresauts, de destruction et de reconstruction, mais c'est le seul lieu de la ville qui n'a pas bougé depuis plus d'un demi-siècle. Et lorsqu'on y va, on a l'impression de pouvoir replonger dans un Beyrouth
des années 50,
de l'âge d'or, des années 50, 60. Et voilà, j'avais envie de...
Avec une intrigue
Une intrigue, le narrateur est à la recherche de quelqu'un dans cette ville-là, et il n'arrive pas à mettre la main sur cette personne-là. Donc il passe beaucoup de temps à flâner autour de cette piscine, autour de ce club sportif, et à rêver un petit peu justement, à essayer de replonger, comme peut le faire... J'avais été à l'époque beaucoup influencé par la littérature de Patrick Modiano, qui, en voyant juste un bâtiment, ou en voyant la plaque d'une rue, ou un numéro de téléphone, pouvait replonger dans une époque passée. Mon idée était d'essayer de replonger dans un Beyrouth d'antan, mais aussi un Beyrouth fantasmé, et le confronter au Beyrouth d'aujourd'hui.
Je sais que vous êtes un tout petit peu pressé, vous êtes au téléphone avec nous, mais laissez-nous pénétrer dans votre atelier quelques secondes. Dites-nous comment vous procédez. Est-ce que vous écrivez pour les adultes le soir et pour les enfants le matin, inversement, ou c'est
Je n'ai à vrai dire aucune discipline. J'ai un rapport à l'écriture qui est très pour prendre une image un peu médicale et pas très heureuse, mais un peu maniaco-dépressif, c'est-à-dire qu'il y a des longues périodes où je n'avais absolument rien
écrit. Ça fait rire tout le monde, hein, c'est le côté maniaque qui
tout à coup, je me mets à écrire 3 livres en même temps. Je pense que j'accumule des choses en moi, des choses que je vois, que je regarde, que je lis, que j'entends, et tout à coup, je pense que mon cerveau atteint une sorte de trop-plein et je dois le mettre sur le papier ou sur l'écran. Mais et comme je vous dis, c'est souvent lié, tous mes livres partent d'un titre et donc c'est souvent le fruit d'une longue réflexion. Et tout à coup, lorsque j'ai un titre qui peut annoncer un programme et que ce programme je l'ai en tête, je vais l'écrire.
Ça semble tellement simple.
Donc j'ai vraiment pas de discipline. Je ne serai
aucune
pas
discipline. Vous êtes complètement libre. Bon.
Oui, c'est ça. Alors j'aimerais être plus discipliné, me mettre plus souvent à ma table de travail, essayer, parce que je pense que aussi l'écriture. C'est un travail. Et
ça viendra avec l'âge, Emmanuel. Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec l'âge. Voilà, on va vous laisser justement retrouver votre liberté, vous laisser partir. Et on vous remercie beaucoup. On vous donne rendez-vous dimanche à partir de 10h au Salon du Livre à Enghien, dans la salle des fêtes. Avec grand plaisir. On vous retrouvera dimanche. Merci encore, Emmanuel Villain.
C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Voilà. Donc, nous allons retrouver Albert et ses mémés sous la plume d'Emmanuel Villain au salon de dimanche. On va aussi aller vers d'autres sujets très, très intéressants avec Ingrid Seithümer, qui est aussi une autrice que nous allons avoir par téléphone. On a beaucoup de chance d'avoir des auteurs qui sont là, qui nous parlent de leur travail, qui nous parlent de leur création. Et vous voyez que c'est quand même un enjeu pour eux extraordinaire, je trouve, d'entendre Sylvie Allouche parler de son travail de mémoire, d'entendre Emmanuel Villain parler de son Beyrouth des années 50 et de toute cette fantaisie qu'il met dans sa littérature pour la jeunesse. Et puis, on va avoir Ingrid Seithümer dans un instant, qui est économiste, journaliste à la Tribune de Genève et qui travaille aussi pour la presse en France. Elle a publié plusieurs livres d'initiation à l'économie, à la justice, qui sont destinés aux enfants aussi. Donc, nous allons écouter son choix musical, qui, on lui posera la question du pourquoi de ce choix. Elle a choisi de nous faire entendre M dans La Bonne Étoile, donc Mathieu Chédid.
Juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse, c'est rien. On est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le penser qu'un jour je pourrais y croire.
Nous sommes toujours entre Chien et Loup, l'émission culture d'IDFM, et voyez que la culture est extrêmement agitée ce soir, puisque nous avons eu plusieurs auteurs déjà, et nous allons en joindre une autre qui se trouve avec nous par téléphone. Je disais qu'Ingrid Seithumer est économiste, journaliste, et qu'elle elle sera présente sur le salon de dimanche avec un livre sur la laïcité. Ingrid Seithumer, merci d'être au téléphone avec nous. Comment est-ce qu'on peut parler de ce sujet et pourquoi vous avez souhaité évoquer ce sujet dans un de vos livres? Vous en avez écrit beaucoup.
Alors écoutez, merci déjà de votre invitation. Oui, effectivement, j'ai écrit pas mal de livres à l'attention de la jeunesse, des plus jeunes comme des ados, parce que je trouve que leur expliquer la vie, enfin, j'ai pas la prétention de tout leur expliquer, mais il y a certains sujets qui me paraissent très importants, et quand on les comprend jeunes, ça permet de planter des graines pour que ces jeunes deviennent des citoyens plus avertis, comprennent mieux le monde dans lequel ils évoluent. Et en ce qui concerne la laïcité, je dois dire que en France notamment, c'est un sujet extrêmement important dont on entend parler tout le temps. Les jeunes à l'école doivent signer une charte de la laïcité, mais on a l'impression que c'est un sujet compliqué, qu'on n'en comprend pas forcément les principes. Alors j'ai voulu essayer de me plonger dans ce que c'est pour montrer que c'est pas très compliqué, que ce sont des règles à appliquer du coup, et que la laïcité permet finalement de mieux vivre tous ensemble. On a l'impression parfois, parce qu'elle est au cœur des débats, qu'elle oppose tout le monde, mais si on s'en tient au principe de la laïcité, et est-ce que la laïcité est vraiment, c'est vraiment un outil pour nous permettre de mieux vivre ensemble, pour permettre à chaque personne, si elle a une religion, de vivre sa religion comme elle le souhaite, en respectant certaines choses, mais voilà, donc je pour moi ce livre est important.
Mais comme les autres. Alors vous coltinez, si j'ose dire, à des sujets de grande importance, puisque vous avez écrit sur l'économie, une sorte d'initiation pour les enfants à l'économie. Vous avez écrit aussi sur la justice. Il n'y a pas plus difficile que d'expliquer aux enfants comment fonctionne la justice. Et puis maintenant, la laïcité.
Voilà, effectivement, c'est des sujets dont on parle beaucoup, dont on parle
quand on écoute les médias, quand on lit la presse, quand on écoute les gens parler entre eux, il est toujours question de justice, de laïcité, d'économie, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Donc c'est un petit peu la base de mes réflexions pour me plonger dans ces ouvrages, essayer d'en retirer vraiment de façon simple ce que c'est, quel impact ça a sur nos vies, par exemple sur vous citiez celui sur l'économie, effectivement, où va l'économie, qui s'adresse également aux adolescents, leur faire comprendre que ils sont des acteurs du monde dans lequel ils évoluent, ils ont à ce titre-là un rôle à jouer, qu'ils peuvent prendre des décisions, qu'ils ont impacté, influé l'environnement dans lequel ils sont.
Eh bien, vous faites partie de tous les auteurs et les autrices qui viendront au salon pour apporter de la connaissance, pour apporter du plaisir, pour apporter de la joie. On a dit que ce salon serait joyeux et populaire. Ben, je crois qu'il apporte aussi de la joie, mais aussi de la réflexion, de la philosophie. Donc, vous êtes très, très bienvenue. Donc, on compte sur vous dimanche 12 mars à Enghien.
Avec grand plaisir, je me réjouis et c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec les personnes qui viennent dans les salons.
Alors vous allez y rencontrer des jeunes, des moins jeunes, des parents, des grands-parents et les autres auteurs. On est dans le studio ici très impressionné par vos capacités à raconter des histoires et à les mettre en scène et à la mettre à la hauteur de compréhension des enfants et de la jeunesse. Encore un très très grand merci Ingrid.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous et très bonne fin de journée alors.
Merci beaucoup et à dimanche alors.
À dimanche, merci. Au revoir.
Voilà, toujours sur IDFM dans notre émission Entre Chien et Loup et à propos du salon du livre de jeunesse à Enghien. Véronique, vous vouliez poser une question.
Oui, je voulais poser une question à Fabienne Cadoche qui m'a parlé de Florence Médina. Qui traite d'un sujet
oui,
malheureusement d'actualité entre le consentement, le viol.
Florence Médina a mille vies. Elle est comédienne, vendeuse, serveuse, interprète française de langue des signes. Elle écrit dès qu'elle peut. Elle a écrit Poussière d'étoiles de l'œil, dans l'œil, Direct du cœur, Une sirène de poche. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'elle a écrit, et que le livre est sorti en mars 2022, Ni prince ni charmant. Et tout est dit dans ce livre.
Et dans le titre, d'ailleurs.
Pardon, dans le titre. Pardon. Je suis tellement dans le mouvement que je veux aller trop vite.
Mais on suit.
Et alors, en fait, voilà, ça commence comme ça. Louis est accusé de viol. Son ami Tristan repense à sa propre vie avec Amina 6 mois plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un livre qui est déclencheur à des débats autour des notions de consentement, de contraintes, de stéréotypes féminins et masculins. Et il amène à des propos très profonds, car la difficulté est de bien communiquer sur ce qu'on accepte ou pas. Et donc c'est très parlant pour cette génération d'adolescents fragiles.
Oui, en effet.
Ça fait partie de ces ouvrages là, de ces auteurs qui écrivent des ouvrages sur des sujets majeurs, hein, des sujets de société, mais qui nous percutent directement, hein, dans nos propres vies. Voilà.
Surtout qu'on vient de terminer encore l'histoire du football, encore avec la même histoire.
Hein. Oui. En effet, on arrive bien sûr à la fin de cette émission, mais j'aimerais qu'on demande à Jackie Pérez de nous dire, de nous rappeler le déroulement de tout le salon de dimanche.
Alors donc, ce salon qui a lieu le 12 mars, à la salle des fêtes d'Enghien, de 10 à 19 heures. Donc sont attendus tous les auteurs que nous venons d'entendre et bien d'autres. Il y a des illustrateurs, une conteuse, les fameux ateliers créatifs dont nous parlions tout à l'heure,
une exposition sur la fabrication d'un livre, la conférence de Sophie Carquin qui viendra débattre sur la problématique de l'adolescence en temps de guerre, en référence à son ouvrage
Alice, 15 ans, résistante, dont nous a parlé voilà. Véronique à l'instant.
Voilà. Ce salon est donc un événement phare sur la ville d'Enghien. Et cette année, nous espérons rivaliser avec les écrans qui accaparent tellement nos jeunes et attirer un maximum d'ados, de pré-ados avec leurs parents et leurs grands-parents. Et ainsi, nous espérons participer à la promotion de la lecture.
Voilà un très 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 beau programme qui nous attend hein, voilà. À la salle des fêtes et puis après à la salle des fêtes d'Enghien dimanche de 10h à 19h. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Oui Véronique.
Je voulais savoir si c'était gratuit.
Oui, naturellement, l'entrée est libre et je voudrais revenir sur le fait que nous sommes en partenariat avec la médiathèque d'Enghien-les-Bains et de la librairie Croco-Livre. Naturellement, l'entrée est gratuite. Vous allez avoir une journée formidable avec nous. Vous allez pouvoir vous inscrire, vous amuser, vous restaurer et croyez-moi, ce sera une journée feel good.
Yes, feel good. Bravo, bravo Fabienne. Une journée joyeuse et populaire, ouverte à tous, on l'aura compris. Un très très grand merci à vous. Merci Véronique.
Merci beaucoup à vous.
Merci, merci Jackie.
Merci de nous
Jackie
avoir
Pérez.
Reçus.
Merci Fabienne Cadoche.
Merci beaucoup, merci.
Et un immense merci à Francky qui
merci
a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre chiens et loups qui sera consacrée à une autre autrice, une historienne de l'art médiéval, Paule Amblard, pour un très beau livre initiatique, La chambre de l'âme. On reste au sujet de l'âme. Tout de suite, vous retrouvez l'émission Luz ao Mundo avec nos amis de langue portugaise. Un grand merci pour votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM Radio. Thank you.